Bonsoir. Heureux d'être avec vous ce soir. C'est toujours un plaisir de recevoir l'invitation du Cap. Et d'autant plus que je finis mon mois de vacances avec vous autres. Je commence à travailler demain. Donc, ça fait plaisir de finir ça avec vous autres. Merci à l'équipe de louanges. Aimez-vous ça, les devinettes, nous autres? Moi, j'aime pas ça parce que j'ai toujours l'impression d'avoir la mauvaise réponse. Là, mais on va vous proposer une devinette. C'est pour ça que j'ai payé chèrement Billy pour pas qu'il donne la réponse. C'est lui qui sait la réponse. Mais et attendez de voir les trois affirmations peut-être avant de tenter une réponse. Qui suis-je? Je suis le plus grand thème des Écritures. Je suis le plus grand besoin de l'être humain. Pourtant, le Seigneur Jésus ne m'a jamais mentionné. Je suis le plus grand thème des Écritures, je suis le plus grand besoin de l'être humain, et pourtant, le Seigneur Jésus ne m'a jamais mentionné. Ceux qui veulent l'essayer, je n'ai pas de prix à vous donner, là, mais en tout cas, Seigneur Jésus a mentionné Dieu. Attention, c'est le plus grand thème des Écritures. Jésus a parlé d'amour, donc c'est pas ça. Il a déjà mentionné le mot amour. On va vous donner la réponse, la grâce. C'est un thème que j'ai à cœur depuis quelques temps, puis lors de mon dernier passage chez vous, et j'ai validé avec vous autres, parce que j'ai pas de mémoire, puis malheureusement, je ne prends pas mes notes, puis je ne sais plus à qui je parle, puis qu'est-ce que je prêche. Mais la dernière fois, je pense, j'avais parlé de Mephibosheth, qui est un exemple de grâce. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, comment cet homme perclus des pieds, qui était évidemment de la famille de Saül, qui était maintenant dans le clan ennemi, maintenant que c'était David qui était sur le trône, et qui se voit offrir cette grâce de la part de David de manger à sa table jusqu'à sa mort, d'être accepté à sa table, alors qu'il n'y avait aucun mérite, aucune raison d'être à la table du roi. Et quel exemple de grâce. Puis pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur depuis quelque temps, c'est que je me dis que si j'avais un message à prêcher avant de mourir, ce serait celui-là. Parce que tout part de là. C'est la grâce. On ne serait pas ici ce soir sans la grâce. Et c'est un fait étonnant que Jésus n'ait jamais mentionné ce mot dans les évangiles. Si jamais vous le trouvez, là, venez me contredire, pas de problème, là, mais jusqu'à nouvel ordre, Jésus, dans les évangiles, n'a jamais mentionné le mot « grâce » dans ses propos. Savez-vous quoi? Il n'y a pas besoin de le dire. Il était la grâce. Il était la grâce sur deux pattes, on pourrait dire. La grâce incarnée. Il le vivait de cette grâce-là. Jean 1, 14 dira quoi? Et la parole a été faite chair, l'incarnation. Et elle a habité parmi nous, pleine de quoi? De grâce et de vérité. Il y a un texte que je n'ai pas pensé de mettre dans le message, mais on a amené ça au pot du Seigneur ce matin à grand-mère. Puis dans Tite 2, verset 11 de mémoire, je pense, où Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Puis la version Darby dira « est apparue ». De la même façon que le verset 13 dira qu'on attend maintenant l'apparition de la gloire. Ce qui est venu la première fois et ce qui est apparu sur terre, c'est la grâce. Et maintenant, ce qu'on attend, c'est l'apparition de la gloire. Et donc, Jésus-Christ était rien de moins que l'incarnation de la grâce. Ses paroles, il n'y a pas besoin de dire le mot « grâce », ses paroles étaient toujours pleines de grâce. Ses actions étaient toujours pleines de grâce. C'est toujours bon de relire et relire les évangiles, de voir Jésus en action. C'est la grâce tout le temps. Et son incarnation est en elle-même une expression de la grâce de Dieu. Ça montre-tu que Dieu nous aime? Il nous a fait grâce et par sa grâce, il a envoyé son Fils. Et c'est pour ça que dans les affirmations, la grâce, c'est le plus grand besoin de l'être humain. C'était le plus grand besoin il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, puis en 2012, puis en 2013, puis jusqu'à temps que le Seigneur revienne, ce sera toujours le plus grand besoin de l'être humain, la grâce. Pourquoi? Parce que la situation de l'être humain est désespérée. Tous ont péché, nous dit le texte. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. On vient au monde séparé de Dieu. On vient au monde séparé de notre Dieu créateur. À cause du péché. Et ce qui nous attend à la fin de notre vie, c'est le juste jugement de ce Dieu trois fois saint. Dès notre naissance, nous sommes des condamnés à mort. La mort physique, mais la mort éternelle. Puis quand on parle de mort, on ne parle pas de la fin de quelque chose, mais d'une séparation. Dans le cas de la mort physique, c'est la séparation du corps et de l'âme. Dans le cas de la mort spirituelle, c'est cette séparation éternelle avec Dieu dans un lieu de tourment qui s'appelle l'enfer. Tournez avec moi dans Éphésiens, si vous avez vos Bibles, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1. Éphésiens 2, 1, des textes qu'on connaît bien, mais Éphésiens 2, 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Et là, en parenthèse, il marque, c'est par grâce que vous êtes sauvés. On ne mérite pas ça. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de quoi? De sa grâce. Par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, puis il va répéter, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. On est sauvés par grâce. Mais pourquoi un message sur la grâce? Pourquoi une série, parce que c'est un petit peu une série que je fais à grand-mère, puis Dieu voulant, si jamais je reviens un jour, on pourra poursuivre dans le thème. C'est que souvent, on n'a pas de problème à accepter le fait qu'on est sauvé par grâce. Mais parfois, on fait comme si on restait sauvé par nos œuvres. C'est subtil, la patente. Je répète, on n'a pas de problème à accepter le fait qu'on est sauvé par grâce. Mais parfois, on fait comme si on restait sauvé par nos œuvres. Pourtant, on reste sauvé par grâce, on est sanctifié par grâce, on sera un jour glorifié par sa grâce. D'abord, qu'est-ce que la grâce? J'aime bien la définition de Charles Swindoll. C'est une faveur ou un bienfait accordé à quelqu'un qui ne le mérite pas, mais j'aime bien le reste de la définition, et qui ne pourrait jamais le mériter. Je répète, c'est une faveur ou un bienfait accordé à quelqu'un qui ne le mérite pas et qui ne pourrait jamais le mériter. Or, on ne mérite pas d'être sauvé. Puis on ne mérite même pas de rester sauvé. Puis on ne mérite pas d'être transformé à l'image de Christ. Puis on ne mérite pas de lui ressembler parfaitement un jour. On ne mérite pas ça. La seule chose que l'être humain mérite, c'est l'enfer. Maintenant, je vous propose une mise en situation. Prenons une journée qu'on pourrait qualifier de bonne journée spirituelle. Tu sais, ça vous arrive-tu des fois une bonne journée spirituelle? Tu sais, tu te lèves le matin, tu as un bon temps de culte dans la parole de Dieu. Même, tu prends même un temps pour prier. La journée se passe sans trop de problèmes, soit à l'école, soit à la maison, soit à l'usine, soit au travail, whatever, soit à la retraite. Tu te sens près de Dieu cette journée-là. Il me semble que ça a bien commencé, puis ça va bien cette journée-là. Puis voilà même que se présente cette journée-là une opportunité inattendue de partager l'Évangile avec quelqu'un qui cherche vraiment Dieu. Hey, la porte est grande, ouverte de même. Et pendant que tu parles à la personne, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider, de travailler dans le cœur de ton ami, de ton contact. Puis là, tu vas dire, là, une bonne journée spirituelle. Prenons une autre journée qui est juste le contraire. Tu te lèves le matin. Premièrement, tu te lèves en tard. Tu te lèves plus tard. Le culte, on oublie ça. On se dépêche à prendre le petit déjeuner. On se dépêche dans les activités de la journée. Puis là, maintenant, on se sent un peu coupable d'avoir trop dormi, d'avoir manqué notre culte. Les choses vont généralement mal cette journée-là. Je ne sais pas si vous avez vécu des choses, des journées qui vont mal. Tu sais, ça commence mal puis ça finit mal. Tout va mal. Puis là, on devient de plus en plus irritable. Ça m'arrive, peut-être pas vous autres. Plus que la journée avance, hein, c'est pas le temps de se faire plier ses pieds vers 4h, 5h, 6h le soir. Et là, tu ne sens certainement pas la présence de Dieu dans ta vie cette journée-là. Pourtant, ce soir-là, tu tombes encore sur une occasion inattendue de partager l'Évangile avec quelqu'un qui est vraiment intéressé à recevoir Christ comme sauveur, qui est vraiment intéressé à entendre l'Évangile. La question que je pose, c'est est-ce qu'on aborderait ces deux occasions de témoigner avec un degré de confiance différent? Serais-tu moins confiant lors d'un mauvais jour que d'un bon jour de partager l'Évangile? Tu sais, il me semble, là, tu t'es levé, tu n'as pas lu, là, t'es marabout, ça a mal été, puis tu vas te dire quoi, tu n'as pas trop la tête au Seigneur, à bon québécois. Oups, ça arrive une occasion de témoigner. Penses-tu que tu serais moins confiant cette journée-là qu'une journée où ça va très bien spirituellement? Trouverais-tu difficile de croire que Dieu pourrait te bénir et t'utiliser au milieu d'une mauvaise journée spirituelle? La plupart des chrétiens à qui l'on pose ces questions vont répondre oui, je me sentirais moins confiant cette journée-là. Je ne sentirais pas que le Seigneur bénirait ce que je ferais, parce que j'ai eu une mauvaise journée spirituelle. La plupart vont dire qu'ils seraient moins confiants de partager l'Évangile dans le second cas, celui d'une mauvaise journée, qu'ils trouveraient difficile de croire que Dieu puisse les bénir au milieu d'une mauvaise journée spirituelle. Ma question maintenant, est-ce que Dieu fonctionne comme ça? Heureusement non, parce que la bénédiction de Dieu ne dépend pas de notre performance. Et pourtant, et c'est subtil, hein? Pourtant, on sent que le Seigneur va nous bénir davantage si on a connu une bonne journée spirituelle. Ou une bonne semaine spirituelle. On le sait avec notre tête que les bénédictions nous sont acquises à travers Christ, mais on a cette vague mais réelle notion qu'elles sont conditionnelles à notre comportement. On dirait que c'est plus fort que nous. Pourquoi sommes-nous portés à penser que le Seigneur ne pourrait pas nous utiliser pour partager l'Évangile dans une mauvaise journée? Parce qu'on ne s'en considère pas digne ce jour-là. Seigneur, tu ne peux pas m'utiliser, gars, je t'ai même pas lu aujourd'hui. Je suis tout croche dans ma vie, puis même j'ai eu des mauvaises pensées, puis même j'ai eu des mauvaises paroles, puis même que je écoute bien. Là. Ou encore, certains vont aller jusqu'à dire, parce que je ne suis pas assez bon cette journée-là. Vous savez, sans qu'on veuille se l'avouer, on a souvent une fausse perception de la vie chrétienne. Et laquelle? C'est de penser que quoique nous soyons sauvés par grâce, nous gagnons ou perdons les bénédictions de Dieu dans nos vies quotidiennes par notre performance. Et ça, c'est subtil. Mais souvent, on a cette fausse perception de la vie chrétienne, de penser que quoique qu'on soit sauvés par grâce, on le sait, nous gagnons ou perdons les bénédictions de Dieu dans nos vies quotidiennes par notre performance. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se faire parler de grâce. Maintenant, quand on connaît une mauvaise journée, qu'est-ce qu'on a à faire? On n'a seulement qu'à revenir où? À la croix. On n'a seulement qu'à revenir à la croix, puis se rappeler, puis voir Jésus qui a porté nos péchés en son corps. Tournez avec moi dans 1 Pierre 2:24. 1 Pierre 2:24. Christ qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Il faut se rappeler ça, mes frères et mes sœurs. Notre salut ne dépend pas de notre performance, il dépend de la sienne. Puis il l'a fait parfaitement. Il dépend de son œuvre à lui, il ne dépend pas de mes œuvres à moi. Le Seigneur Jésus-Christ a payé mes péchés une fois pour toutes. Et lorsque j'ai tendance à penser que comme je dis, on sait qu'on est sauvé par grâce, mais qu'on commence à penser qu'on marche par nos œuvres, dans le fond. Revenons à la croix. Et rappelons-nous que Christ a payé mes péchés. Et ce n'est pas basé sur ma performance, mais sur la sienne. On doit s'approprier par la foi pour nous-mêmes le sang de Christ qui va nettoyer nos consciences coupables. Regardez Hébreux 9, 14. On n'est pas tellement loin. Hébreux 9, 14. Verset 13 dans le contexte, Hébreux 9, 13, « Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés et sanctifiés procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, combien plus cela va purifier votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. » Dans le scénario d'une mauvaise journée, dans le fond, on devrait retourner à la croix. Et on pourrait prier quelque chose comme ça, puis évidemment, ce n'est pas une prière à répéter et à mémoriser, mais on devrait prier quelque chose comme ça lorsqu'on connaît une mauvaise journée spirituelle. Puis j'ai bien aimé le dernier cantique qui reflétait le psaume 51, dans le fond. Reconnaître ce qu'on a fait de mal cette journée-là. Hein? On pourrait prier quelque chose comme ça. « Père, j'ai péché contre toi. J'ai été négligent dans mes disciplines spirituelles que je sais nécessaires et utiles à ma croissance spirituelle. J'ai été irritable et impatient envers ceux autour de moi. J'ai permis à des mauvaises pensées de s'installer dans mon esprit. Je me repens de ces péchés. Je réclame ton pardon. » On pourrait continuer la prière dans ce sens. Tu as dit dans Romains 4, 5 que tu justifiais l'impie. Père, à la vue de mes péchés, aujourd'hui, je reconnais que je suis moi-même méchant, que je suis moi-même impie. Enfin, mon problème n'est pas simplement les péchés que j'ai commis, même ceux dont je ne me suis peut-être même pas aperçu, mais c'est que mon cœur est pécheur. Ces péchés dont je suis conscient maintenant ne sont simplement que l'expression de mon cœur pécheur, mais en dépit de mes péchés et de ma nature pécheresse, tu as dit dans Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça semble une déclaration incroyable alors que je réalise mon péché. Comment puis-je être sans condamnation quand j'ai si ouvertement et volontairement péché contre toi aujourd'hui? Ô Père, je sais que c'est parce que Jésus a porté les péchés que j'ai commis aujourd'hui en son corps sur la croix. C'est pour ça que j'ai plus de condamnation. Il a souffert la punition que je mérite afin que je puisse expérimenter les bénédictions qu'il méritait. Ainsi, je viens à toi, cher Père, et au nom de Jésus, je te demande d'être capable de partager efficacement l'Évangile avec cet ami maintenant. Fin de la prière. Quand on a une mauvaise journée spirituelle, revenons à la croix. Demandons pardon. Et comme vous l'avez vu, ce type de prière ne contient pas une attitude cavalière envers le péché. Ce n'est pas de dire, ce n'est pas grave ce que j'ai fait de mal aujourd'hui, ce n'est pas grave si j'ai désobéi au Seigneur, ce n'est pas grave si j'ai fait ci. Non, non. C'est une prière de repentance là-dedans. Mais c'est de revenir à la croix et dire, « Seigneur, je sais que sans ta grâce, je serais fait. Puis par grâce, utilise-moi. Même si je ne me sens pas disposé à être utilisé, utilise-moi. Sois ma bouche. » L'idée qui ressort de cette prière, et c'est la vérité à retenir ce soir, c'est que la grâce de Dieu à travers Christ est plus grande que notre péché. Même dans nos pires jours. Par contre, pour expérimenter cette grâce, on doit se l'approprier par la foi en Christ et sa mort à notre place. Puis évidemment, pas besoin d'avoir une prière aussi longue. On s'entend, l'important, c'est l'attitude de notre cœur. Est-ce que les sentiments exprimés dans cette prière reflètent l'attitude de mon cœur, de ton cœur? J'ai bien aimé lire ce commentaire. À chaque fois que le grand prédicateur du 19e siècle, Charles Spurgeon, se retrouvait derrière la tribune, il disait cette prière silencieuse inspirée de Luc 18, 13, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Charles Spurgeon, à chaque fois qu'il prenait la tribune, il priait cette prière dans son cœur. « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur. » Cette seule phrase, d'ailleurs, résume l'exemple de prière qu'on vient de voir ensemble. Au fond, on peut prier une prière comme ça à chaque fois qu'on est conscient de notre besoin de la grâce de Dieu et du fait qu'on ne la mérite absolument pas. Maintenant, retournons à notre scénario d'une bonne journée. Là, on a vu une mauvaise journée, puis là, on a besoin de repentance, on a besoin de se rappeler que Christ a payé pour mes péchés, j'ai besoin de demander pardon, puis je sais que le Seigneur va me pardonner. Mais revenons cette fois à notre scénario d'une bonne journée. Tu sais, cette journée où tes disciplines spirituelles étaient toutes à leur place. Cette journée où tu es raisonnablement satisfait de ta performance chrétienne. Tu sais, une bonne journée chrétienne. Ma question, as-tu gagné des bénédictions de Dieu ce jour-là? Est-ce que Dieu sera heureux de te bénir parce que tu as été bon? La réponse évidente, c'est non. Puis même si on dit que Dieu ne travaille qu'à travers des vases purs, combien bon dois-tu être pour être un vase pur? Combien bon est suffisamment bon? Si on commence à juger ça sur notre performance, aujourd'hui j'ai été un bon chrétien, je vais être béni. Aujourd'hui j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis là, un des sujets éventuels dans la série, c'est le pharisianisme chrétien. Ça existe. Tournez avec moi dans Matthieu 22. Verset 37. Le contexte, on va aller au verset 34. Matthieu 22, 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver, en bon québécois pour le poignet. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, utilisons la réponse de Jésus aux pharisiens comme un standard à la question, combien bonne a été ta bonne journée spirituelle? Si tu veux savoir combien bonne a été ta bonne journée spirituelle, as-tu gardé parfaitement ces deux commandements d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force? As-tu accompli parfaitement l'autre commandement qui est d'aimer le prochain comme toi-même? Ça, c'est le standard pour évaluer si tu as une bonne journée spirituelle. C'est le standard de Dieu. Est-ce que Dieu établit une échelle de notes? Est-ce que 90% c'est la note de passage avec Dieu? Hein? Si cette journée-là, tu as été 90% pas pire d'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est correct? On connaît la réponse à ces questions, n'est-ce pas? Qui peut dire qu'il y a eu une bonne journée spirituelle dans la perfection? S'il y en a un dans la salle, viendrez me voir, puis je pense qu'on va vous béatifier, on va vous envoyer chez les catholiques. Tournez avec moi dans Matthieu 5, 48. J'aime bien le standard de Dieu pour juger c'est quoi une bonne journée spirituelle. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est un standard, ça, je pense. Ouais. Moi aussi, je fais ça. Non, mais on est tous de même. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Moi, j'ai une bonne journée spirituelle aujourd'hui. Là, je mérite d'être béni. Ah ouais. Regardez Jacques 2,10. Hein? On connaît le texte, mais on va aller voir Jacques 2,10. Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. On dit quoi, là? Pas mal. Ça nous rabaisse la taquette, vous dire, on ne se pètera pas les bretelles de mes mains là, pour nos bonnes journées spirituelles. Là. Où je veux en venir avec cette comparaison entre une bonne et une mauvaise journée, c'est qu'indépendamment de notre performance, on le voit au tableau, indépendamment de notre performance, nous sommes toujours dépendants de la grâce de Dieu. Cette faveur imméritée à ceux qui méritent sa colère. Alors qu'on connaisse une bonne journée spirituelle, une mauvaise journée spirituelle, on sera toujours dépendant de la grâce de Dieu, qui est une faveur imméritée à ceux qui méritent sa colère. Il y a des jours où on est plus conscient de notre nature pécheresse et donc plus conscient de notre besoin de sa grâce, mais il n'y a jamais une journée où nous pouvons nous tenir devant lui sur nos propres deux pieds, où nous sommes suffisamment dignes de mériter sa bénédiction. Et aujourd'hui, là, je mérite d'avoir une bénédiction de Dieu. Je répète. Il y a des jours où on est plus conscient de notre nature pécheresse et donc plus conscient de notre besoin de sa grâce, mais il n'y a jamais une journée où on peut nous tenir devant lui sur nos propres deux pieds de performance où nous sommes suffisamment dignes de mériter sa bénédiction. Et en même temps, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que la grâce de Dieu est disponible dans nos pires journées. Et ça me fait du bien de me le rappeler. La grâce de Dieu est disponible dans mes pires journées. Quand tout va mal, quand j'ai pas lu sa parole, quand j'ai péché, quand j'ai désobéi, sa grâce est encore disponible dans mes pires journées. C'est vrai parce que Jésus-Christ a pleinement satisfait les demandes de la justice de Dieu et pleinement payé la pénalité d'une loi brisée quand il est mort sur la croix de notre place. Tournez avec moi dans Colossiens 2, 13. Colossiens 2,13. Vous qui étiez morts par vos offenses, on reprend un petit peu ce qu'on avait dans Éphésiens, hein? Vous qui étiez morts par vos offenses dans Colossiens 2,13 et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu, hein, c'est, nous autres, on n'est pas capable de se rendre à la vie, c'est lui qui nous rend à la vie, avec lui, comment il nous a donné la vie, comment il nous a régénérés, en nous faisant grâce. Puis moi, je suis content parce que c'est marqué pour toutes nos offenses. Moi, je suis content quand le Seigneur il est mort il y a 2000 ans, puis mes péchés, je n'avais aucun de commis encore. Il les a tous pardonnés déjà. C'est drôle, hein? Tous mes péchés que présentement j'ai commis, je viens d'avoir 50 ans, je ne me donnais pas ça, mais non, je vais me donner ça. Tous les péchés que j'ai commis jusqu'à 50 ans, puis je peux vous annoncer que je vais en commettre cette semaine, puis les autres que je vais commettre jusqu'à ma mort. Christ a payé. Rappelons-nous ça, mes frères et mes sœurs. Faisant grâce pour toutes nos offenses. Alors, je n'ai pas une bonne journée spirituelle, une mauvaise journée spirituelle. Évidemment, dans toutes ces séries sur la grâce, on va tomber dans la sanctification un jour, mais rappelons-nous que quel que soit le type de journée qu'on connaît, le type de semaine qu'on connaît, on est sauvé par grâce. On est resté sauvé par grâce. Puis il nous a fait grâce de toutes nos offenses. Maintenant, est-ce que le fait que Dieu nous ait pardonné tous nos péchés signifie qu'il ne se soucie plus de ce que nous obéissions ou désobéissions? Pas du tout. Éphésiens 4.30, regardez, on va aller voir. Tournez avec moi dans Éphésiens 4.30. Je vais virer un petit peu ce soir. Là. Éphésiens 4.30. Éphésiens 4.30, il dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Est-ce que Dieu, parce qu'il a pardonné toutes nos offenses, ça ne fait rien qu'on pêche, mais non. On attriste le Saint-Esprit quand on pêche. Quelle est la prière de Paul dans Colossiens 1.10? Retournez dans Colossiens. Colossiens 1.10. On peut commencer au verset 9. Colossiens 1.9. Paul va dire, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. nous attristons Dieu et nous plaisons à Dieu dans notre marche chrétienne. Et Dieu n'est pas indifférent à notre marche. Et ça aussi, ça se développe dans la série. Dieu se préoccupe de notre conduite. Il veut même nous discipliner quand on refuse de se repentir de notre péché. C'est notre Papa Céleste. Mais Dieu n'est plus notre juge. Et à travers Christ, il est maintenant notre Papa Céleste qui nous discipline seulement par amour et seulement pour notre bien, puis à la bonne façon, puis avec la bonne force. Vous savez, les pères terrestres sont imparfaits. Je partageais ça avec Caroline, la plus vieille chez nous. J'ai été son père adoptif, entre guillemets, parce que quand j'ai connu Francine, Caroline, Isabelle, après ça, on a eu deux enfants, deux gars. Puis je dînais avec elle, elle attend son premier enfant d'ailleurs. Ou une grand-papa, encore là. Et puis, filiation. Puis on parlait de ça, parce que je ne suis pas son vrai père, entre guillemets, père terrestre, mais on parlait des imperfections des pères. T'sais. Mais comment Dieu, notre Papa Céleste, lui est parfait, tu penses? Puis lui, il ne manque jamais à ses promesses. Il est toujours fidèle, il prend soin de nous, il nous écoute. Extraordinaire comme Père. Et c'est sûr que Dieu, lorsqu'on désobéit, mais comme Papa, il va nous reprendre aussi. Il n'est pas indifférent à nos désobéissances. Mais rappelons-nous qu'on est pardonné. Rappelons-nous qu'on est gracié pour toujours. Et si les bénédictions de Dieu étaient dépendantes de notre performance, on peut s'entendre qu'elles seraient maigres. Si les bénédictions de Dieu étaient dépendantes de notre performance, on n'aurait pas une grande bénédiction, on va dire quelque chose. Car nos meilleures œuvres sont entachées de péché. Nos meilleures œuvres sont entachées de péché. Avec différents degrés de motifs impurs, beaucoup de performances imparfaites. Puis à un certain degré, nous regardons toujours à nous-mêmes, on protège nos égos. Écoutez bien ceci, c'est parce que nous ne réalisons pas la dépravation absolue du principe de péché qui demeure en nous et entache tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'on entretient toute notion de mériter les bénédictions de Dieu à travers notre obéissance. C'est parce qu'on ne réalise pas à quel point on est dépravé, à quel point que le péché vient entacher tout ce qu'on fait. Puis parce qu'on oublie ça, on pense que là, tout à coup, on peut se mériter des bénédictions de Dieu parce qu'on n'est pas payé. C'est parce qu'on ne saisit pas pleinement le fait que Jésus a payé la pénalité pour tous nos péchés qu'on désespère à recevoir la bénédiction de Dieu quand on a échoué dans nos propres désirs de vivre une vie qui plaît à Dieu. Je voudrais vous laisser peut-être 10 minutes avant parce que on va vous donner un break à soir, on n'étirera pas ça trop. Mais je voudrais vous laisser avec un principe important qui résume tout ce qu'on a vu ce soir. Puis j'aimerais ça qu'on reparte avec cette idée-là, quitte à revenir, comme je l'ai dit, Dieu voulant une autre fois. Là, c'est... Principe important. Tes pires journées ne seront jamais si pires pour que tu sois hors portée de la grâce de Dieu. Et tes meilleures journées ne seront jamais si bonnes pour que tu sois hors besoin de la grâce de Dieu. Tes pires journées ne seront jamais si pires pour que tu sois hors portée de la grâce de Dieu. Mais tes meilleures ne sont jamais si bonnes pour que tu sois hors besoin de la grâce de Dieu. En d'autres mots, là, la grâce de Dieu me sera et te sera toujours disponible. Et tu auras toujours besoin de la grâce de Dieu dans les bons et dans les mauvais jours. Et Dieu voulant, une prochaine fois, comme nous avons fini tout le bonheur ce soir, mais Dieu voulant, on explorera ce sujet extraordinaire de la grâce. On va prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Tu es un Dieu de grâce. Ton Fils, c'était l'incarnation de la grâce. Il n'y avait pas besoin de mentionner le mot, il était la grâce. Ses paroles étaient de grâce, ses actions étaient de grâce. On est sauvé par grâce, on est resté sauvé, on est gardé sauvé par grâce. On sera glorifié par grâce. Et Père, ce soir, ce n'est pas un encouragement à banaliser le péché dans nos vies et à dire que ce n'est pas grave, non. Lorsqu'on pêche, on doit se repentir, comme le cantique qu'on a chanté à la fin. Mais Père, c'est subtil, Seigneur, de tenter de revenir aux œuvres plutôt qu'à la foi. C'est subtil aussi de penser qu'on peut se mériter tes bénédictions. par une bonne performance chrétienne, ou qu'on peut être justement exempt de ta grâce parce qu'on a connu une mauvaise journée spirituelle. Garde-nous de tomber dans cette fausse perception de la vie chrétienne. Ça ne dépend pas de notre performance, mais la tienne a été parfaitement réalisée. Et on est parfaitement lavé en Jésus-Christ une fois pour toutes, pour ceux qui t'appartiennent. Et Seigneur, je ne connais pas tout le monde ici ce soir, j'espère que tout le monde t'appartient, j'espère que tout le monde a reconnu qu'il était pécheur, qu'il était condamné à l'enfer, qu'il n'y avait qu'une seule solution, c'est Jésus-Christ, fait homme, qui a vécu cette vie parfaite parce qu'il est le Fils de Dieu, qui est mort à la croix. Et Seigneur, c'est en croyant au sacrifice à notre place, lui qui a porté mes péchés, la pénalité de mes péchés, de nos péchés, en croyant seulement, c'est par la foi qu'on est sauvé, qu'on puisse mettre notre confiance dans le sacrifice de ton Fils, puis lui qui est ressuscité et qui est à la droite de toi et qui va revenir. J'espère que tout le monde a fait ce pas de foi. C'est seulement une fois sauvé qu'on peut goûter cette grâce. Père, je te demande de bénir ton peuple au Cap de la Madeleine et garde-nous dans ta grâce jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus. Amen.